Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Excusez-moi. Je suis en train de mourir avec ma propre salive. Je suis désolée. OK, je reprends mes esprits. Aujourd'hui, on continue dans notre dossier sur les milieux de garde. La semaine passée, si t'as pas encore vu, j'ai démêlé en fait les différents milieux. Donc c'est quoi la différence entre un centre de la petite enfance, une garderie subventionnée, une garderie privée non subventionnée, un milieu familial accrédité. Donc j'ai vraiment fait la distinction dans ces différents milieux-là. Pourquoi j'ai fait ça? Pour t'aider à aller probablement mieux comprendre les milieux dans le but de que tu puisses analyser quel genre de milieu risque de mieux convenir à tes besoins et aux besoins de tes enfants aussi, le connaissant un peu ton enfant, même s'il est jeune, il a un certain tempérament, peut-être que tu observes qu'il est un peu plus anxieux ou que qu'il a des intérêts divers. Bref, dans ce podcast-là, je parle vraiment des différents milieux. Je parlais aussi de la place 05. Et là, je voulais faire un petit update. Parce que la place 05, au mois de septembre l'année prochaine, donc septembre 2024, ça va être remplacé par un guichet pour les parents. C'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire que c'est la seule et unique façon d'inscrire notre enfant dans un milieu de garde. Donc, c'est comme la place 05, on va là-dessus, on inscrit notre enfant. La différence, c'est qu'il y a plus de transparence dans la façon dont les milieux vont prioriser les choix. Vous allez aussi avoir accès à votre rang, ce qui est super intéressant, mais c'est le même principe. Donc, on s'inscrit, on écrit la date de naissance de notre enfant, notre adresse, et on va sur la carte, on va aller sélectionner les différents milieux, les différents CPE, milieux familiaux qui nous intéressent, ou même il y a des garderies aussi là-dessus qui sont privées. Je pense que là, tous les milieux vont s'y retrouver. Donc, on procède à l'inscription dans les différents milieux qui nous intéressent. Puis, dans le fond, là, ça va être... les différents milieux vont inscrire. Mettons, nous, on priorise la fratrie. Nous, on priorise les enfants des éducatrices. Nous, on priorise les enfants à besoins particuliers. Nous, on priorise, les nouveaux arrivants. Tous les CPE, tous les centres, ils ont des critères comme ça de priorisation. Et ça, ça a toujours été en place. Il y a toujours eu, tu sais, je vous disais, il n'y a pas de façon de bypasser, c'est vrai, mais il y a des critères de qui font en sorte que, oui, il y a certains enfants qui peuvent passer par-dessus vous, dans le sens où si Manon, qui s'est inscrite 8 mois après vous, bien, elle a déjà un enfant dans le CPE parce que son premier enfant, il était déjà inscrit, bien, elle a la priorité sur vous pour faciliter, dans le fond, la vie familiale. Et le but de ce guichet-là, c'est justement de favoriser la conciliation travail-famille. Donc, ils vont vraiment prioriser les enfants de la fratrie et les éducatrices pour que les éducatrices puissent retourner au travail rapidement. Donc, bref. Mais ça, c'était déjà en place, ce système de priorisation-là. Et là, hein? Je mange mes mots. Je pense que j'ai dit comme il faut, mais je ne suis pas certaine. Et donc, la différence, c'est ça, qui est super intéressant, c'est maintenant, ça va être plus la transparence. Donc, pourquoi Manon a passé avant vous, puis quel est votre rang? Donc voilà, mais je vous invite quand même à aller lire là-dessus un petit peu si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tout ce que j'ai dit par contre par rapport au fait qu'on ne peut pas bypasser, que c'est préférable d'inscrire dès que vous êtes enceinte puis que vous connaissez la date d'accouchement prévue, puis d'aller sur la carte, d'aller sélectionner les milieux qui vous intéressent, ça, tout ça, c'est encore à jour. Donc je poursuis aujourd'hui parce que là, peut-être que tu as reçu l'appel tant attendu ou peut-être que tu as réussi à trouver une place dans un milieu familial ou dans une garderie privée. Là, tu es peut-être folle comme de la marde, hein, parce qu'on le sait, c'est peut-être comme gagner un ticket d'or, surtout si tu es dans un CPE. Ou bien peut-être que tu te ronges les ongles au sang parce que là, tu es comme « mon bébé d'amour! » On le sait que c'est précieux, on le sait que c'est difficile en fait de faire confiance aveuglément pratiquement à un milieu pour envoyer notre enfant. Tu sais, vos enfants vont être dans ces milieux-là 30, 35, 40 heures semaine. C'est l'extension de votre famille, comme je l'ai dit la semaine passée. Donc, c'est important d'être rassuré, c'est important de faire confiance au milieu, c'est important de savoir que ce milieu-là va convenir aux besoins de vos enfants, que vous êtes en accord avec les valeurs, avec le fonctionnement du milieu, avec les interventions qui sont faites, puis que vous vous sentiez confortable. Sinon, comme je l'ai dit la semaine passée, vous allez aller au travail, puis vous allez être hyper anxieux, anxieuse de savoir vos enfants dans un milieu qui peut-être ne lui convient pas, est-ce qu'il est bien traité, est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il est heureux, tout ça. Donc aujourd'hui, ben j'avais envie, comme je l'ai annoncé la semaine passée, de vous présenter une liste de questions, une liste de choses à observer quand vous allez visiter les milieux, parce que je le rappelle, je l'ai dit, mais je le répète, c'est hyper, hyper, hyper important d'aller visiter les milieux, même s'il y en a juste un qui vous appelle et que vous êtes comme « Oh my God, mais c'est un CPE, ça vaut de l'or! » ou peu importe le milieu que c'est. Parce qu'il y a des très bons milieux familiales, puis il y a des très bonnes garderies subventionnées aussi. Là, j'ai l'air de faire l'éloge des CPE. Là, c'est juste parce que c'est plus contrôlé dans mon sens à moi, puis que j'ai eu des expériences, moi, personnelles, plus positives, mais ça ne veut pas dire que les autres milieux sont moins bons. Là. Au contraire, je l'ai dit. Mais peu importe. Allez visiter, allez poser des questions. Des fois, il y a certaines directions, certaines, tu sais, des personnes qui vont mettre un petit peu la pression du genre « Ok, mais là, il faut que tu me donnes la réponse en fin de journée. » Pour moi, ça, c'est déjà un red flag en partant parce que vous, en tant que parent, vous avez le droit d'aller voir l'état des lieux, d'aller voir les éducatrices, d'aller poser des questions. C'est votre droit. Et les responsables, la direction devraient accepter aussi que vous fassiez une visite. C'est la moindre des choses, là, tu sais. Alors voici, je me lance. Et si jamais tu veux avoir la version écrite de ces questions-là, je vais toutes les écrire là, dans l'article qui va être associé à l'épisode 141. Donc juste à vous rendre sur la section balado, allez voir l'épisode, il va être là et il va avoir toute la liste sous forme de questions, mais des questions vraiment plus moins exhaustives. Là, je vais développer un petit peu. Donc, première chose, puis en passant là, il n'y a absolument rien de gênant à sortir votre liste de questions durant la visite. Au contraire, là, je l'ai faite moi-même. À chaque fois que j'ai été visiter un milieu, j'avais mon téléphone, j'avais mes questions pour être sûre de rien oublier. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait des petites choses que j'observais. J'ai l'expérience, j'ai travaillé dans des milieux, mais tu sais, mais avoir la liste de questions, c'est vraiment une bonne idée parce que ça va vous enlever un stress. Ça peut être stressant quand même, aller visiter un milieu. Surtout quand on ne sait pas trop quoi observer puis quoi poser comme question. Alors, première chose en fait à observer ou à poser, à la première chose à faire, bref, peu importe le milieu, ce que je te conseille fortement, c'est d'aller visiter durant les heures de garde. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'observer, d'être témoin des interactions réelles entre les éducatrices et les enfants. Fait que tu vas pouvoir observer comment ils sont les enfants. Ils ont-tu l'air heureux? Ils ont-tu l'air de s'ennuyer? Est-ce qu'ils sont tristes? Tu vas voir un petit peu comment les éducatrices interagissent avec les enfants. Est-ce qu'ils sont en activité? Est-ce qu'ils sont en activité libre? Est-ce que tu entends des éducatrices crier? Est-ce que toutes les portes sont fermées? Est-ce que les portes sont ouvertes? Bref, c'est quoi l'ambiance en général? Parce que si tu y vas le soir quand c'est fermé, c'est facile de rien voir de ça, en fait. Puis pour moi, ça vaut de l'or de pouvoir observer ça, de pouvoir observer c'est quoi la dynamique. Les enfants, ils ont-tu l'air bien? Ils ont-tu l'air heureux? Les éducatrices sont-tu souriantes? Sont-tu chaleureuses? Ou on entend crier, sont bêtes, sont assis sur leur péteux, puis ils font pas grand-chose, tu sais? Parce qu'il y en a, ça existe, ça l'arrive. Dans les milieux familiales, ça se peut que les RSG soient plus réticentes à vous recevoir pendant qu'ils sont avec les enfants parce qu'évidemment, ils sont seuls, ils vont être moins disposés à répondre à vos questions. Mais si jamais ils sont réticentes, je suggère juste que vous proposiez de venir faire un tour avec votre enfant sans rester longtemps, juste pour voir, juste pour se rencontrer face à face, tu sais, que notre enfant passe un petit 15 minutes peut-être pendant la période de jeu à l'extérieur. Vous allez voir, ils sont comment les enfants, vous allez voir, elle est comment aussi la responsable, l'éducatrice avec les enfants. Donc, autre chose à observer pendant cette visite-là, pendant que les enfants sont là, est-ce que, tu sais, je l'ai dit, est-ce que les enfants ont l'air heureux? Est-ce qu'ils ont l'air d'être en période de jeu libre dans le local ou ils ont-tu l'air d'être assis en punition à pas faire grand-chose? Moi, j'ai déjà été visiter une garderie. Tous les poupons, là, puis moi, c'était pour un poupon, ma fille, elle avait 9 mois, ils étaient assis dans des genres de chaises hautes, là, comme built-in, là, en bois, et ils ne faisaient rien. il ne faisait rien. Puis l'éducatrice, elle était assise sur sa chaise et elle ne faisait rien. Il n'y avait pas de tapis par terre. J'en revenais pas que les enfants, ils étaient assis dans des chaises puis qu'ils faisaient rien. Ils attendaient que le temps passait. Puis pour moi, juste à ce moment-là, quand j'ai vu ça, j'ai mis fin à la visite parce que j'étais comme, c'est pas vrai que moi, ma fille, elle va passer ses journées assise à rien faire. Là. Il n'y a pas de collation, il n'y a pas de dîner, il n'y a rien. Ils ont même pas de jeu, de jouet devant eux. Il se passe rien. Fait que je suis sortie, je suis partie, puis ça a été fini, là. Donc, vous voyez comment que ça peut être riche. Juste rapidement, j'ai vu ce red flag-là. Donc, est-ce que les éducatrices, ils ont l'air d'être en train de surveiller les enfants? Est-ce que les éducatrices sont en train de discuter entre elles? Ça arrive, je suis pas en train de dire que c'est interdit que les éducatrices discutent entre elles, mais ça s'est déjà vu dans des milieux où est-ce que les éducatrices sont zéro en interaction avec les enfants et sont, tu sais, dans le fond, ils vont là pour faire du social. C'est correct de faire un petit peu de social, mais c'est pas ça la priorité, là. C'est un travail, ok? C'est pas, tu vas pas travailler, t'es pas éducatrice pour aller jaser avec tes chums sur tes heures de travail. Bref. Des fois, on peut être là assez longtemps pour observer ça. Est-ce que les éducatrices surveillent les enfants ou elles jouent de façon interactive avec les enfants, elles parlent, tu sais, c'est des choses qu'on peut observer. Les éducatrices, ce n'est pas des surveillantes, ce n'est pas des gardiennes. Leur travail, c'est de s'assurer que les enfants ont un bon développement, de stimuler leur développement, de les encourager, de bonifier leur jeu, d'interagir avec eux, de modéliser, bref. Ce qu'on s'attend d'une éducatrice, finalement. Est-ce que tu entends les éducatrices crier pour intervenir auprès des enfants? Est-ce que tu vois des interventions? Est-ce que les interventions... Bon, on s'attend, là, on s'entend, je m'attends pas à ce que ça soit toujours parfait, mais comme le temps que tu seras là, c'est quoi le genre d'interaction puis d'intervention que tu vois? Y a-tu des choses qui te font friser les oreilles? Si oui, ça se peut que tu sois inconfortable si ton enfant va dans ce milieu-là. Voilà. Donc, puis évidemment, là, je le dis, là, ça se peut que tu tombes sur une mauvaise journée ou est-ce qu'il y a un enfant qui fait une crise ici et ça, mais je pense qu'à ce moment-là, tu es capable de te servir de ton jugement. Je pense que c'est vraiment important d'aller visiter quand les enfants et les éducatrices sont sur place. Deuxième point, si tu peux apporter ton enfant pendant cette visite-là, c'est encore plus winner parce que tu vas pouvoir constater de c'est quoi le contact entre ton enfant et les membres du personnel, ok? Fait que est-ce que les éducatrices ou est-ce que la direction semble s'intéresser à ton enfant? Tu sais, je sais pas moi, est-ce qu'il se penche, il se met à sa hauteur? Est-ce qu'il lui parle? Est-ce qu'il interagisse avec lui? Est-ce que l'ambiance a l'air chaleureuse? Ou au contraire, tu sais, les éducatrices, c'est comme si t'existais pas, c'est comme si ton enfant n'existait pas, puis ils sont assis à la table, puis tu continues à surveiller les enfants. Ça va donner une petite idée de... à quel point, ben, de leur personnalité, en fait, puis de leur couleur au travail. Tu sais, cette semaine, dans le CPE de ma fille, c'est la période des visites, puis quand je suis allée chercher ou porter Margot, je me souviens plus, je pense que c'est quand je suis allée la chercher, il y avait justement une famille qui visitait, puis tu sais, la directrice, Jacqueline, je l'aime beaucoup. En fait, moi, je me trouve tellement, tellement, tellement chanceuse parce que on est dans un petit milieu, mais c'est vraiment un CPE extraordinaire. Les éducatrices sont vraiment, vraiment extraordinaires aussi. Puis ça fait tellement du bien, c'est tellement réconfortant, puis c'est tellement sécurisant comme parent. Mais bref, tout ça pour dire que si jamais ils écoutent, bonjour les éducatrices du CPE de Margot. Mais c'est ça, j'ai vu Jacqueline avec l'enfant, puis j'étais comme waouh, ok, tu sais, c'est là que tu vois que il y a des milieux qui sont beaucoup plus chaleureux que d'autres, puis c'est là que tu vois que ok, ça va être le fun. Tu sais, Jacqueline était vraiment à la hauteur de l'enfant, elle interagissait avec lui. Jacqueline, qui est la directrice du CPE de Margot, elle lui parlait, puis tu sais, il y avait vraiment une belle chimie, une belle connexion avec les parents aussi, puis c'est ça. Fait que amener votre enfant pour voir comment ils vont interagir avec votre enfant, ça peut être vraiment une très 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 bonne idée. Mais des fois, on hésite, hein? On est comme « Ah, je sais pas si je peux le faire. » Oui, faites-le, amenez-le. Si tu visites pour une place en pouponnière, parce que tu as un bébé en bas de 18 mois, et que tu es à l'aise, ce que je ferais, c'est que je déposerais ton enfant au sol, avec les autres enfants, en supposant que les autres enfants sont au sol aussi, en train de jouer, là, comme je te dis, s'ils sont assis dans des chaises puis qu'ils font rien, c'est un gros red flag, mais mettons que les enfants sont tous assis par terre, puis les enfants jouent, puis il y a des matelas, puis tout ça. Essaie d'observer, c'est quoi la réaction de ton enfant par rapport aux autres, c'est quoi la réaction des autres enfants. Puis si t'es pas vraiment à l'aise, ou si tu peux pas déposer ton enfant parce qu'il y a pas de matelas au sol, ou s'il y a pas rien que t'as l'air, tu sais, qui a l'air d'être confortable assez pour justement déposer ton enfant, ben c'est peut-être un red flag. Hein, parce que ton enfant, là, ton poupon de 18 mois qui ne marche peut-être pas ou qui marche à quatre pattes ou qui commence à marcher, ben il a besoin, il va être au sol. C'est la seule façon pour lui de jouer en étant dans une mobilité ou qui contrôle, dans une mobilité qui le rend confortable, dans le respect finalement de son développement moteur puis de son développement global. Les jeunes enfants, ils ont besoin d'être au sol. C'est comme ça qu'ils vont jouer, c'est comme ça qu'ils vont explorer. Fait que s'il n'y a pas de matelas, puis si c'est pas confortable de le mettre par terre, pour x, y raison, encore une fois, peut-être un petit red flag. Ça veut dire que les enfants vont peut-être souvent être dans des chaises hautes ou assis dans des chaisières plutôt qu'en apprentissage de la motricité libre au sol. Donc, vraiment un point super important à observer. Ensuite, question plus technique un petit peu. Tu peux demander si la majorité des éducatrices sont formées. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même important à savoir. Tu sais, combien ont une attestation, combien ont leur diplôme. Selon la loi, de ce que je sais, c'est qu'il devrait être deux éducatrices formées sur trois qui sont présentes sur place. Donc, par exemple, moi, dans le CPE de Margaux, il y a 6 à 8 éducatrices, là, à cause des rotations et des pauses, des rotations et des journées de congés, des pauses, tout ça. Ben donc, en principe, mettons, ils sont 6 à la fois dans le milieu, tout petit milieu, là, je vous l'ai dit. Mais sur les 6, ils devraient avoir 4 éducatrices de formée sur place à tous les jours et 2 qui seraient des remplaçantes qui n'ont pas de formation, des remplaçantes qui n'ont pas fini leur AEC, des remplaçantes qui sont à l'école ou bon. Mais c'est ça. Mais comme je le disais dans l'épisode précédent, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça se peut que réalistement, maintenant, c'est quelque chose qu'on n'est plus capable de faire. Mais je sais que c'était ça la norme avant. Non, mais on peut quand même questionner, tu sais, est-ce que les éducatrices sont formées ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de remplaçantes? Dans un milieu familial, puis en garderie, ça se peut qu'ils ne soient pas formés du tout. Fait que tu sais, c'est peut-être l'information qui est pertinente à savoir pour toi, surtout si tu vas dans une garderie. Tu sais, il y a combien d'éducatrices qui sont formées, là, qui vont vraiment bien comprendre le programme du ministère, qui vont bien comprendre les besoins, qui vont bien comprendre, bon, tout ça. Et d'ailleurs, dans un CPE, ils font de la formation continue. Ça, c'est super intéressant pour vous, les parents, parce qu'une responsable en milieu familial peut s'intéresser, peut s'outiller, peut aller écouter des podcasts, faire des formations, mais c'est son choix. Il y a des RSG qui sont là depuis 30 ans, des éducatrices en milieu familial qui sont là depuis 30 ans, puis que leur formation date d'il y a 30 ans, s'ils ont eu une formation. Ils font leur RCR à jour, ils font leur cours de secourisme à jour, mais ça se peut que ça fasse 30 ans la dernière fois qu'il y a eu une formation, donc ça se peut que... qui comprennent un petit peu moins bien le style de parentalité qu'on voit plus aujourd'hui, parentalité sécurisante, parentalité respectueuse, parentalité bienveillante. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai retiré Margot de son milieu familial quand on est arrivé ici à Sherbrooke, parce qu'il y avait un énorme clash entre mes valeurs et les valeurs du milieu et les interventions du milieu. Donc, il faut poser ces questions-là. C'est juste que des fois, c'est touché quand on a besoin vraiment d'un milieu très rapidement, mais il y a des questions qui se posent et moi, j'ai peut-être omis de poser certaines questions. Ou des fois, il y a des questions qui se posent, la personne va te donner une réponse qui va te satisfaire, puis après ça, ben dans le concret, tu sais, dans le jour, au jour le jour, il y a des petites choses qu'on va observer qui finalement nous conviennent plus ou moins, bref. Mais donc, est-ce qu'elle est formée? Est-ce qu'elle fait de la formation continue? Il ne faut pas se sentir mal non plus si jamais, mettons, c'est une RSG, un milieu familial, de demander des références. Parce que si, par exemple, elle n'est pas formée, mais tu n'as pas vraiment de référent, tu n'as pas vraiment, tu n'as pas d'avis, tu ne sais pas vraiment, il faut que tu te fies à sa parole. Fait que des fois, de demander des références de des parents dans le passé qui sont venus, ils peuvent vous donner ça, ils peuvent vous donner des noms puis des numéros de téléphone, des parents, mettons, qui sont actuellement dans le milieu ou ça peut être même des parents que leurs enfants ont quitté pour aller à l'école, puis ils peuvent vous donner ces noms-là, vous pouvez contacter ces parents-là pour savoir, tu sais, je veux inscrire mon enfant dans le milieu, elle est comment, Micheline, puis bon, poser des questions. Vous pouvez demander aussi dans les milieux, dans n'importe quel milieu, est-ce qu'il y a souvent des remplaçantes? Tu sais, est-ce que les remplaçantes sont souvent les mêmes? Qu'est-ce qui arrive quand... l'éducatrice elle est malade, surtout si c'est un milieu familial? Est-ce que le milieu ferme? Est-ce qu'il y a une remplaçante qui vient dans le milieu? Donc, comment ça fonctionne? Si c'est dans un CPE ou dans une garderie, on peut demander, est-ce que tu sais, quand il y a des remplaçantes, c'est souvent les mêmes? Est-ce qu'il y a une grosse rotation avec la main-d'œuvre en ce moment qui est plus difficile? Est-ce que mon enfant va être en contact avec plein d'adultes que je connais pas, qui connaît pas? Tu sais, c'est vraiment des questions qui sont super importantes à poser. Dans les milieux familiales, si l'éducatrice apprend des vacances, elle en prend-tu? Comment ça marche? Est-ce que je paye? Est-ce que le milieu est fermé? C'est quand ses vacances, à peu près? Tu sais, est-ce qu'elle le sait? C'est combien de temps? Parce que comme j'ai dit la semaine passée, la responsable en milieu familial, quand elle va prendre ses vacances, dans le fond, ben vous allez être un peu à la merci de ses vacances. C'est elle qui va décider, ben moi je prends mes vacances, mettons, les 2 semaines de la construction. Ben, ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas bébé choix de prendre vos vacances pendant la semaine de la construction ou de vous trouver une solution de rechange. Mais c'est des questions à poser parce que peut-être que ça ne va pas vous convenir du tout, du tout, du tout la réponse. Elle peut aussi faire du 4 jours, puis le vendredi ou le lundi, ben c'est tu t'arranges, puis t'as pas d'éducatrice, t'as pas de milieu de garde finalement. Aussi demander, est-ce que la RSG en milieu familial, est-ce qu'elle prévoit avoir d'autres enfants? Est-ce que sa famille est terminée? Parce qu'une RSG qui tombe enceinte doit fermer son milieu. Une éducatrice enceinte est en retrait préventif, donc le milieu va fermer, puis après ça, est-ce qu'elle va réouvrir son milieu? On le sait pas. Fait que là, c'est à vous aussi de poser ces questions-là pour voir si est-ce qu'il va y avoir une stabilité ou c'est comme je vais toujours avoir un petit peu un stress qu'elle tombe enceinte puis qu'elle ferme le milieu. Ensuite, observer dans les locaux ou dans le milieu familial, est-ce que les jeux, les jouets sont à la hauteur des enfants ou il n'y a pas beaucoup de choses de sortie puis tout est rangé dans des armoires très hautes, t'sais? Est-ce qu'il y a une belle variété de jeux? Est-ce qu'il y a, mettons, je sais pas moi, un coin cuisine, un coin livre? Est-ce que vous voyez des casse-têtes, des déguisements, un coin artistique, je sais pas, des jeux de table, t'sais? Parce que les enfants devraient être en mesure d'être autonomes dans leur local sans qu'il y ait trop de jouets de sortie puis que ça soit overwhelming, là. Les enfants devraient être capables d'aller dans un coin, de prendre un jeu, de jouer avec, de le ranger. Donc, les jeux devraient être à la vue puis devraient être accessibles. J'ai déjà vu des milieux avec les jouets qui n'étaient pas du tout accessibles. Il n'y avait rien accessible. Il fallait que les enfants demandent pour tout. Ça peut être un petit peu un petit red flag. Ensuite, demander à quoi ça ressemble une journée type. Quel genre d'activité mon enfant va faire dans la journée? Comment ça se déroule la journée? C'est quoi l'heure des siestes? C'est quoi l'heure des repas? À quelle heure maximum je dois venir le porter le matin? À quelle heure, tu sais, est-ce qu'il y a un nombre d'heures de fréquentation minimum? Tu sais, est-ce que, mettons, parce que moi, j'ai travaillé dans un CPE, où est-ce que il était strict la direction par rapport à ça? Il fallait que l'enfant reste dans le milieu au moins, je pense, c'était 3 heures. Moi, dans le milieu où je suis en ce moment, il n'y a pas ça. Dans l'ancien milieu où est-ce que j'ai travaillé, c'était si tu viens chercher ton enfant pour aller à un rendez-vous médical, tu peux pas venir le reporter après. Dans le milieu où je suis maintenant, qui est un CPE, les deux c'est des CPE, sont très différents. Dans le milieu où je suis maintenant, je pourrais aller porter Margot, aller la chercher à 10h pour un rendez-vous chez le dentiste, puis après ça aller la reporter à 11h au CPE pour qu'elle finisse sa journée. Donc, il y a certains milieux qui sont beaucoup plus flexibles que d'autres. Donc, poser ces questions-là, c'est quoi la flexibilité par rapport à ce genre de choses-là? C'est quoi, évidemment, les heures d'ouverture? C'est quoi l'horaire des siestes? C'est quoi l'horaire des repas? Vous pouvez ensuite demander à quelle fréquence les enfants vont aller à l'extérieur. Est-ce que les enfants vont dehors à tous les jours? Est-ce que les enfants vont dehors 2 fois par jour? Est-ce que les enfants vont dehors juste quand il fait beau? Et ça, c'est tricky parce que c'est là que des fois, il va y avoir des petits mensonges. Parce qu'il y a personne qui va dire « Non, nous, on va pas dehors » ou « On va dehors juste si la température le permet. » J'ai déjà, Éléonore, elle a déjà été dans un milieu familial où est-ce que si la température le permet, c'est pas la même définition pour moi que pour la responsable du milieu familial. Fait que pour moi, si la température le permet, c'est si il pleut pas, s'il fait moins 25 ressenti, je comprends, on va pas dehors, on va pas dehors trop longtemps. Puis s'il fait 30 et plus, on va pas dehors ou on reste à l'ombre, on va pas dehors trop longtemps. Pour elle, si la température le permet, c'était plus genre s'il fait moins 5, c'est trop froid. Fait que finalement, bref, ma fille, elle sortait jamais dehors. Donc, encore une fois, je l'ai retirée. Mais je sais pas si c'était un mensonge, si on s'est juste pas bien compris, mais tu sais, moi, c'était comme « Oui, oui, on sort à tous les jours, le matin, le soir, je fais souvent l'ouverture, la fermeture dehors, mais jamais c'est arrivé concrètement. » Puis quand je passais devant le parc ou quand je passais devant la maison dans le jour à n'importe quelle heure le matin où est-ce qu'il aurait dû être à l'extérieur, mettons vers 10h, 10h30, il n'était jamais dehors et il ne sortait jamais. Bref, donc c'est des questions à poser. Puis il faut faire confiance, là. Je sais, je dis ça, je veux pas alarmer personne puis que tout le monde soit méfiant, là. Mais c'est ça, poser ces questions-là par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une cour? Est-ce que dans la cour, il y a une aire réservée à la pouponnière? Bref, selon moi, les enfants devraient aller dehors tous les jours, été comme hiver, même si, tu sais, s'il fait gris dehors, puis que c'est comment, on sait pas trop s'il va pleuvoir. S'il pleut pas, il pleut pas. Puis, comme l'adage le dit si bien, c'est pas la température le problème, c'est l'habillement. Si ton enfant il est bien habillé, il y a pas de problème pour aller dehors. Bon, bref, en tout cas, ça c'est mes valeurs à moi. On est tous différents, fait que peut-être qu'il y en a que ça va pas déranger, mais bref, une question à poser. Tu peux demander aussi... Épelaï! OK. Hey, je réalise que c'est plus long que je pensais. mais si je te le dis là, dans l'article qui va avoir le résumé, c'est juste que là, ici, ce qui est intéressant, c'est que je peux apporter beaucoup plus de nuances, beaucoup plus d'éléments. Donc, tu peux demander à l'éducatrice, qu'est-ce que vous faites quand les enfants dorment pas à la sieste? Donc, est-ce que mon enfant doit rester sur son matelas ou dans sa bassinette toute la période de la sieste? Est-ce qu'il a le droit, après un certain temps, de prendre un livre, de prendre un jeu calme et de te poser aussi, toi, qu'est-ce qui te rend à l'aise comme maman? Il y a déjà, j'ai vécu des situations qui étaient un petit peu problématiques par rapport aux siestes et aux interventions par rapport à la sieste. Donc, c'est une question à poser si pour toi c'est important que ton enfant ne reste pas 2 heures de temps sur son matelas à rien faire. Est-ce que ton enfant peut apporter une suce, une doudou, un toutou? Moi, mon avis de professionnel, c'est qu'un objet rassurant devrait être permis, particulièrement à la pouponnière, un album photo en tissu, par exemple, ou une photo de papa-maman. Même chose pour une doudou, un toutou. Moi, je pense que c'est important d'avoir cet objet rassurant-là. Donc, à vérifier avec ton milieu, vérifie aussi pour la suce. Si ton enfant, c'est un enfant à suce, est-ce que le milieu refuse les suces? Moi, j'ai travaillé dans le milieu où est-ce que je travaillais, il n'y avait aucune suce, il n'y avait pas de pouponnière, par exemple, mais ça veut dire qu'à partir de 18 mois, ça c'est un an et demi, là. Les enfants ne pouvaient pas rentrer, il fallait qu'ils aient fait leur sevrage de suce à un an et demi. Donc, ça peut être un point quand même assez majeur à vérifier. Ensuite, si ton enfant est à la pouponnière, demande, est-ce que les horaires de sieste sont stricts? Et pourquoi que je dis ça? C'est parce que les bébés, les tout-petits, ils ont des besoins de sommeil qui sont hyper variables et uniques à chacun. Il y en a qui vont avoir besoin de dormir 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Il y en a qui vont avoir besoin de dormir 1 heure seulement l'après-midi. Il y en a qui vont être fatigués pendant l'heure du repas. Il y en a qui vont être fatigués à 3 heures. Puis ça varie d'une journée à l'autre. Fait qu'en principe, là, les pouponnières devraient prioriser les besoins individuels de chaque enfant et permettre à chaque enfant de dormir quand il en a besoin. Fait que ça serait le genre de réponse idéale auquel tu pourrais t'attendre. Puis après ça, ben sinon les plus vieux, souvent, là, c'est des siestes traditionnelles là, à partir du groupe de 2 ans. Là, c'était souvent de à peu près 1 heure à 3 heures ou midi et demi à 2h30. Là. Bon, et dans un milieu familial, comme c'est un contexte différent où est-ce que l'éducatrice est toute seule puis qu'elle n'a pas de pause, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile pour elle de coucher les enfants le matin, là. Fait qu'en tout cas, ça, c'est important aussi de demander en milieu familial comment ça se passe. Ensuite, on peut demander comment ça se passe les repas, est-ce qu'ils mangent dans la même pièce, où est-ce qu'ils jouent, où est-ce qu'ils changent de local. Puis ça, c'est vraiment une technicalité, il n'y a pas vraiment d'inconvénience. Mais bon, comment ça se passe, c'est quoi le genre de repas, est-ce que le menu est affiché à quelque part, c'est quoi les collations, c'est quoi le genre de nourriture qui est servie, c'est quoi le genre de collation, c'est-tu des collations toutes faites. Qui est acheté au Costco ou c'est des collations maison, donc c'est qui fait la cuisine et tout ça. Ensuite, observe, est-ce que les installations, les locaux, tout ça, ça a l'air propre, ça a l'air en bon état, t'sais, la cuisine, ça a l'air de quoi, les jouets, ça a l'air de quoi, la bassinette, les lits, tout ça, t'sais, de quoi ça a l'air, est-ce que il a l'air d'avoir suffisamment d'espace pour que les enfants puissent être confortables, circuler, jouer, ou t'sais, il y a beaucoup de choses, t'sais, observe l'environnement, de quoi ça a l'air, il fait-tu chaud, il fait-tu froid, est-ce que les planchers par terre sont froids, est-ce qu'il y a des portes dans les locaux, est-ce qu'ils sont ouvertes, sont fermées, y a-tu, si c'est un RSG, tu sais, c'est comment qu'on fait pour rentrer dans le milieu, y a-tu un code sur la porte, tu sais, comment ça fonctionne tout ça. D'ailleurs, c'est ça, comment ça fonctionne pour rentrer et sortir du milieu, est-ce qu'il y a un code, est-ce qu'il y a une carte à puce, est-ce qu'il y a une personne qui vient accueillir, est-ce qu'il y a un intercom, tu sais, la sécurité de vos enfants, c'est vraiment, vraiment, vraiment prioritaire. Il y a des normes très, très, très strictes dans les CPE pour éviter, parce qu'il est arrivé dans le passé, des grands malheurs, des affaires assez terribles. Il y a des parents qui ont des interdits de contact avec leurs enfants, donc c'est supposé être très, très, très strict, donc vraiment à vérifier comment ça se passe. Ensuite, c'est surtout dans un milieu familial. Tu sais, le matin, ça se passe comment? Est-ce que j'arrive, je rentre dans le milieu, je déshabille mon enfant, je viens te la porter dans le sous-sol? Moi, j'ai déjà été dans un milieu où est-ce que je laissais mon enfant à la porte puis je pouvais même pas rentrer. J'ai jamais pu mettre les pieds finalement dans le milieu, sauf la journée où j'ai été visitée, qui était un soir qui avait pas d'enfant. Sinon, je n'ai jamais pu. Tu sais, il fallait que je la texte le soir avant de partir pour qu'elle habille mon enfant puis qu'elle vienne me la porter. Pour moi, ça, c'est un gros red flag. Pourquoi elle veut pas que j'aille dans le milieu? Pourquoi elle veut pas que je vois? Qu'est-ce qu'il y a-tu quelque chose à cacher? Tu sais? C'est déjà arrivé aussi que je suis arrivée dans le milieu le matin puis que l'éducatrice n'était même pas là. C'était une de ses amies parce que l'éducatrice était partie à l'épicerie chercher des croissants, des jus d'orange pour que... parce que là, son amie, ça faisait longtemps qu'elle l'avait pas vue. Fait que là, il s'organisait un petit brunch, là, le matin. Je suis repartie avec ma fille ce matin-là. Donc, tu sais, c'est ça. C'est des choses comme ça qui sont à vérifier. Puis tu sais, je sais, j'ai eu des expériences difficiles. Je le répète, là, il y a des excellents milieux. Il y a plein de gens. Il y a plein d'ARG qui m'écouteraient parler puis qui seraient comme « Oh mon Dieu, je peux pas croire que ça existe des milieux comme ça. » Mais oui, ça existe des milieux comme ça. Donc, c'est super important d'aller visiter et de poser des questions. Qu'est-ce que je peux dire ensuite? Tu peux demander dans quel groupe va être ton enfant. Est-ce que c'est un groupe simple? Est-ce que c'est un groupe double? C'est quand qu'il va avoir des changements de groupe? Est-ce qu'il est dans un groupe multi-âge? Ils ont quel âge les autres enfants? Sinon, bien évidemment, on veut demander c'est quoi les horaires, s'il y a des journées de congé, c'est quoi le tarif? Je sais pas, moi, il est à quelle fréquence le paiement? Comment on fait pour payer? Si j'arrive en retard, y a-t-il des frais de retard? Est-ce que la pouponnière, des fois la pouponnière, elle ouvre un petit peu plus tard, mettons le CPE il ouvre à 7h, mais tu peux pas arriver avec ton enfant avant 7h30 parce qu'il n'y a pas d'éducatrice à la pouponnière qui commence avant 7h30. Donc bon, c'est toutes des questions qui sont à poser. Même chose pour les vacances de l'éducatrice qui est en ARG, qui est en milieu familial. Ensuite, super important de demander comment ils pensent faire l'entrée progressive de ton enfant. Tu sais, que ce soit à la pouponnière ou dans les plus grands, ce serait pas l'idéal d'arriver puis comme « Ok, bing bang, mon enfant fait 5 jours semaine, 35 heures semaine, il est là de 8h à 4h le soir. » On veut faire ça de façon super progressive. Il y a des milieux qui veulent pas. Pour moi, ça aussi, c'est un red flag parce qu'on n'est vraiment pas en train de s'adapter aux besoins de l'enfant. Donc, super important de vérifier avec eux comment ils voient ça la première semaine d'entrée. Donc, une réponse idéale que tu pourrais t'attendre à avoir, c'est genre la première journée, tu peux venir une heure avec lui ou avec elle, ou comme sinon la laisser comme une heure, pas plus qu'une heure vraiment, là, le matin. Puis après ça, la deuxième journée, tu viens, mettons, la porter de 9h à 11h. Puis après ça, la troisième ou quatrième journée, elle pourrait faire un dîner. Puis après ça, le vendredi, elle pourrait faire une sieste. T'sais, on y va vraiment de façon progressive, dépendant évidemment de ton horaire, de ta flexibilité. Mais moi, personnellement, c'est ce qui m'a rendue à l'aise. Mais c'est comme je te dis, c'est pas tous les milieux qui vont le permettre. Fait que ça dépend de toi, de tes valeurs, de ce qui te rend le plus confortable et de ton jugement, évidemment. Voilà ce que je pourrais dire pour l'entrée. Ensuite, ben, c'est sûr que si tu as un enfant qui a des couches lavables, faut pas prendre pour acquis que tous les milieux vont prendre les couches lavables. Il y a des milieux que oui, des milieux que non. Donc, c'est des questions à poser. Est-ce qu'ils prennent couches lavables, lingettes lavables? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec la DME? Si jamais tu fais l'alimentation autonome, tu veux savoir si ton milieu va faire ça. Je l'ai dit, le milieu de garde de ton enfant va être l'extension de ta famille. C'est comme... Fait qu'il faut qu'il puisse... faut que ça puisse répondre à tes valeurs puis à tout ce que tu fais en ce moment avec ton enfant, à tout ce que tu essaies d'intégrer, tout ce que tu essaies de lui apprendre. Fait que si toi, tu fais la DME, bien probablement que c'est important pour toi que le milieu fasse la même chose puis qu'il soit confortable avec ça puis qu'il soit pas en train de nourrir ton enfant avec des purées ou que qu'il nourrisse ton enfant avec une cuillère puis que pour eux, c'est seulement ça et uniquement ça puis que ton enfant, il a pas son autonomie pour manger. Tu veux... garder tes habitudes, garder tes façons que tu fais. Autre point super important, tu peux demander à voir la documentation avant de prendre une décision. Fait que tu pourrais demander de voir une copie de la régie interne. Ça, c'est toutes les règles que dans le milieu, tout le fonctionnement du milieu, c'est toutes des choses qu'il va falloir que tu te comply, que tu respectes. Finalement, c'est les règles de vie, les règles de fonctionnement du milieu. Donc, les valeurs, les règles internes, leur fonctionnement, les routines, les horaires, tout ça. Donc, ça serait des documents que je te conseille de prendre connaissance pour être sûr de tout lire, tout prendre connaissance, puis que tu sois confortable avec tout ça. Et, tu sais, un milieu devrait pas te mettre la pression là, pour que tu prennes une décision au moment où tu vas visiter. Ça m'est arrivé d'aller... J'ai dû visiter à peu près là, 15 à 20 milieux dans ma vie. Et donc, de ces 15 à 20 milieux-là, il y en a, tu sais, 98% que j'ai dit non. Là. Il y a deux milieux que j'ai acceptés, puis il y a deux fois que j'ai retiré mes enfants parce que finalement, c'était dans des milieux familiales qui... l'information qui avait été donnée n'était pas totalement juste ou on s'est mal compris, mais que ça convenait pas à mes valeurs. Puis c'est plate de vivre ça. On veut éviter de vivre ça. On veut pas vivre ça. On veut le plus possible aller chercher un milieu qu'on va faire confiance, qu'on va se sentir en sécurité. Donc, il devrait au moins te donner 24 heures pour y penser et pendant ces 24 heures-là, réserver ta place, entre guillemets, pas te dire comme mais si tu me dis pas un oui maintenant, moi je donne ta place à quelqu'un d'autre, encore moins faire ça au téléphone puis dire comme mais non mais moi si tu me dis pas que tu acceptes maintenant, je donne ta place à quelqu'un d'autre avant même d'être venu visiter, tu sais, de dire genre mais faut que tu me dises oui puis après ça tu viendras visiter. Gros red flag. Tu peux demander aussi comment ça fonctionne si jamais j'ai acquitté le milieu, tu sais, est-ce qu'il y a un frais, combien de temps à l'avance je dois le dire. Parce que c'est pas l'idéal, mais si jamais tu sens que ton enfant il est en danger au niveau de son développement ou de sa sécurité, c'est important de quitter. Donc, c'est une question quand même qu'on peut poser, qui est probablement moins importante parce que dans le fond, la façon que ça fonctionne souvent, c'est qu'en CPE, en garderie subventionnée, avec des milieux familiales accrédités, donc qui fonctionnent avec un bureau coordonnateur, généralement, c'est 10% du montant qui reste à payer d'ici la fin ou un maximum de 50$, puis il faut le dire, mettons, 30 jours d'avance, donc c'est vraiment pas compliqué, mais je sais pas c'est quoi les termes avec des garderies privées ou des milieux familiales privés, donc posez la question juste pour être sûr. Bon. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, je le dis, je le répète, va dans l'article qui est associé à l'épisode d'aujourd'hui, tu vas la retrouver dans la section balado. Là, j'ai vraiment donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais avoir une liste qui va être beaucoup moins exhaustive. Donc, avec la liste en main et ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu devrais être en mesure de faire une visite qui va être très proactive et qui devrait vraiment t'enligner sur... à savoir, est-ce que tu as un doute, est-ce que tu as un bon feeling? Je te rappelle que si jamais là tu vas visiter puis qu'après ça, tu es comme « Ah ouais, c'est cool, je pense que ça pourrait être bien » parce que des fois, notre cerveau, il est fort pour essayer de nous convaincre quand on a un besoin, hein, quand on est stressé puis on est comme « Ok, il faut vraiment que je trouve un milieu rapidement. » Des fois, on peut essayer de se faire croire que ça va être parfait puis notre subconscient, lui, il sait qu'il va avoir des petits issues, des petits trucs qui nous dérangent. Dors là-dessus si tu dors confortable ou si comme pendant la nuit ou au moment de t'endormir, t'es comme « ok non, je le file pas finalement », puis prends ta décision à tête reposée. Oublie pas que ton enfant va être là en moyenne 40 heures semaine pendant les 4 prochaines années. C'est genre 8000 heures que ton enfant va passer dans ce milieu-là. Il faut que tu sois 100% en confiance. Donc fie-toi à ton instinct, c'est vraiment ton meilleur allié. Et si jamais... pour une raison X, Y, t'inscris ton enfant dans un milieu qui va pendant quelques semaines, quelques mois, puis tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te rend inconfortable, premièrement, n'hésite pas à en parler à l'éducatrice. Hein. Je pense que la communication ouverte, c'est la meilleure façon, la transparence aussi. Sinon, si tu vois qu'il y a une fermeture avec l'éducatrice, tu peux aller parler à la direction. Puis s'il n'arrive pas à te rassurer, sache que tu peux en tout temps retirer ton enfant du milieu. Il y a un questionnaire, un document, je veux dire, de résiliation de contrat qui se trouve généralement dans les papiers d'admission. Tu sais, je suis sûre qu'il y a quelque chose aussi par rapport aux garderies privées, par rapport au milieu familial. Informez-vous avant, mais c'est dans votre droit là, de pouvoir retirer votre enfant rapidement sans avoir à payer. Je sais que ces places, ça vient avec un inconvénient de trouver une autre place, là, mais c'est pas mieux si tu sens que ton enfant il est pas en sécurité dans ce milieu-là. Alors, j'espère sincèrement t'avoir éclairé sur le sujet. Je sais, encore une fois, c'est un podcast un petit peu long, mais je suis certaine que c'est des informations qui vont être hyper riches pour les nouveaux parents qui sont justement dans les périodes de visite. Si jamais t'as d'autres idées ou t'as d'autres choses, ou si jamais tu veux me partager ton expérience, ton appréciation, tu peux le faire en commentaire dans la description du podcast ou encore tu peux m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine où je parle justement, la semaine prochaine ou dans deux semaines, je suis pas certaine, je pense que ça va être plus dans deux semaines, mais où est-ce que je vais parler de l'intégration en CPE, donc comment on fait ça ou le changement de groupe, comment j'aide mon enfant à faire un changement de groupe qui se passe en douceur et si mon enfant fait des crises le matin ou le soir, comment je peux intervenir. Alors on se reparle la semaine prochaine ou dans deux semaines, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, il va y avoir un podcast qui risque de t'intéresser aussi. Tourlou!